Bonjour à chacun, à chacune. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour cette Bible qui nous parle tout au long de ces pages de ton amour pour chacun d'entre nous. Nous invoquons sur nous, Seigneur, ton esprit afin que cette parole puisse toucher nos cœurs, afin que, comme il a été dit au début de ce culte, nous puissions ouvrir notre coffre-fort là où nous mettons notre trésor à l'abri, que nous puissions être touchés au plus profond d'entre nous. Seigneur, ta parole est une lumière sur mon sentier. Nous te remercions de, ensemble, pouvoir la partager, la méditer, afin d'être conduits en ta présence. Amen. Voilà, ces derniers jours, nous avons été interpellé au travers des médias par un événement assez important qui s'est passé sur Genève. Je parlais de la conférence de Genève contre le racisme, ou Durban 2, je ne sais pas comment on prononce, Durban, en lien bien sûr avec cette première conférence qui s'était tenue en Afrique du Sud en 2001, à Durban justement. Je pense que vous en avez entendu parler. Et c'est vrai qu'à cette occasion, la Suisse a été un petit peu regardée de travers quand notre président a accueilli un autre président, Ahmadinejad, ce président iranien jugé assez infréquentable pour son discours, c'est vrai, un discours passablement dur, négationniste et antisémite. Alors c'est vrai qu'il faut dire aussi que cette conférence a été passablement décriée avant même qu'elle se tienne, justement à cause des dérives antisémites qui ont eu lieu lors de la première session en Afrique du Sud. Et peut-être que vous avez reçu comme moi certains mails nous encourageant à jeûner, à prier pour cette conférence et puis surtout à être attentif par rapport aux résultats qui seraient tenus ou obtenus suite à cette rencontre. Les gens avaient peur et c'est vrai que les pays musulmans ont insisté beaucoup pour introduire dans un texte final, dans cette déclaration finale, la question de la diffamation des religions, de l'islamophobie, de la limitation de la liberté d'expression. Des tas de choses vraiment importantes qui heureusement n'ont pas été inscrites dans ce texte. Je crois aussi qu'il y a eu pas mal bien sûr de lobbying, pas mal de manipulation de l'information, un peu comme toujours, il faut être aussi attentif. N'empêche que c'est vrai que si je n'ai pas été un observateur très attentif de cette conférence, mais j'étais frappé, peut-être comme vous, par l'importance tout simplement des questions soulevées par cette rencontre. La liberté d'expression, la liberté de choix en matière de religion, on en a parlé un petit peu une dernière fois avec la réforme radicale, vous vous souvenez peut-être de cette page de l'histoire de nos églises qui ont mis en avant cette liberté de conscience de pouvoir croire un petit peu différemment que l'Église nationale. Toutes ces questions sont difficiles, sérieuses, elles datent pas d'hier. Et je lisais encore dans le dernier bulletin de Portes Ouvertes qu'en Inde, l'État de Karnataka, je ne connais pas du tout, souhaite, à la suite d'autres États de ce pays, voter une loi anti-conversion, par exemple, qui va pénaliser tous ceux qui ont envie de soit changer, soit de venir dans une certaine religion. Et ça vise, on le sait, essentiellement les gens qui se tournent vers la religion chrétienne. Je mentionne aussi, parce que c'est intéressant, que le site internet de notre fédération, l'Église, vient de publier une interview du directeur international de l'Alliance évangélique mondiale. Cette Alliance évangélique mondiale se mobilise justement autour de la question de la liberté de conscience et de religion. Et dans cet article, ils invitent les évangéliques à défendre la liberté religieuse, pas simplement de nos églises, mais de tous et de toutes les religions. Voilà des questions importantes, notamment aussi celle du racisme. On sait combien cette question du racisme nous concerne tous, parce que je crois personnellement que personne n'échappe totalement au racisme. Je crois que nous avons tous et toutes, sans le vouloir, sans parfois même le savoir, une fois ou l'autre, des réflexes racistes. Alors, je le rappelle de manière assez schématique et brève, ce que c'est que le racisme, le regard raciste se focalise d'abord sur la différence des autres, pour mieux rejeter justement ces différences. La peur induite, parce qu'il n'est pas comme nous, conduit à une hostilité envers tout un groupe ou envers une catégorie particulière de personnes. Le regard raciste induit aussi une réduction. Le regard raciste réduit la personne ou l'individu, justement plus à une personne, mais à une certaine individualité avec certaines caractéristiques préconçues qui fait disparaître vraiment la personne derrière une catégorie générale de race. Bref, pour le dire d'une autre manière, le regard raciste déshumanise. Or, je crois justement que l'Évangile nous invite à porter sur autrui un regard d'humanité, un autre regard. Mais pour pouvoir regarder autrui avec un regard d'amour, je crois qu'il nous faut d'abord nous interroger sur quel est le regard que Dieu pose sur chacun d'entre nous. Et plusieurs textes de l'Évangile nous parlent de ce regard de Dieu, au travers du regard de son Fils, au travers du regard du Christ, au travers du regard de Jésus. Et je vous propose tout simplement ce matin de parcourir relativement brièvement trois textes qui nous parlent de ces regards de Jésus. Le premier texte, c'est le jeune homme riche, texte connu en Marc 10.
Marc 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se mit à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il était très riche.
Le jeune homme s'est jeté à ses pieds et une question a jailli de sa bouche. « Que faut-il faire ?» Alors Jésus va répondre parce qu'il est poli. Il va répondre en rappelant les commandements de Dieu. Une réponse simple, je dois dire même une réponse assez évidente pour les Juifs de l'époque. Une réponse simple à une question qui aurait pu être en tout cas une question facile, une question superficielle qu'on jette comme ça à la cotonnade. Que faut-il faire? Mais le jeune homme va insister. La réponse de Jésus ne lui suffit pas. J'ai gardé tous ces commandements dès ma jeunesse, mais que me manque-t-il encore? Et on voit que la question pour lui est sérieuse. Sa précipitation n'est pas signe d'une impulsivité, peut-être en l'air, mais bien celle d'un besoin profond. Et Jésus sait voir cela. Et la relation entre Jésus et ce jeune homme va s'approfondir. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, nous dit le texte. Mais qu'est-ce que Jésus a bien pu voir en ce jeune homme pour se laisser ainsi émouvoir? Alors sans doute sa sincérité, sans doute son honnêteté dans sa fidèle application des lois de Dieu. Il a sans doute aussi apprécié sa persévérance, son engagement. Mais je crois que Jésus a aussi vu son côté plus sombre, ses doutes, son insatisfaction, ses doutes quant à ce qu'il a fait. Est-ce que c'est suffisant ce que j'ai fait? Jésus a aussi conscience justement de sa conscience au jeune homme qui n'est pas en paix face à la question de l'au-delà. Qu'est-ce qu'il me manque pour l'au-delà? Jésus voit ses peurs, Jésus voit sa souffrance. Et parce que Jésus regarde au cœur, il a vu à la fois les forces de ce jeune homme, mais aussi ses faiblesses. Et c'est pourquoi Jésus l'aima. Bon, il ne l'a pas aimé parce qu'il était beau, parce qu'il était jeune, brillant, Oui, les évangiles nous disent que c'était un chef. Enfin, les autres textes des autres évangiles, c'était un chef. Beau, je sais pas, mais en tout cas, brillant. Non, Jésus ne l'a pas aimé comme on peut aimer, je ne sais pas, Roger Federer, notre star à nous, ou bien j'ai mis l'acteur Bruce Willis. Vous connaissez? Ça, c'est ma star à moi. Je me dévoile un peu, mais c'est vrai que je l'aime bien. Bref, ce n'est pas un regard admiratif que Jésus va jeter sur cet homme, mais un regard de compassion, un regard d'amour. Oui, le regard de Jésus n'est pas un regard qui s'arrête à l'extérieur, aux seules apparences, mais un regard qui va au cœur de la personne, qui découvre une histoire, qui découvre d'ailleurs une même humanité que la sienne, et qui le pousse à la compassion. Et c'est bien là le problème avec le regard raciste. Le racisme déshumanise parce qu'il porte sur les gens un regard qui en fait des caricatures, des boucs émissaires. Hein, ce n'est plus une personne qui est là devant moi, certes avec sa propre histoire, mais une histoire qui me ressemble aussi. Non, c'est plutôt l'image que je me fais d'une personne composée, en tout cas à partir des tas d'a priori, à partir de généralisations abusives, à partir même de fantasmes. Oh, moi, je suis sûr que cette personne, elle doit certainement voler, trafiquer ou abuser de l'aide sociale. Ah oui, ça, on est très fort en Suisse pour avoir peur de cela. Oui. Mais surtout, parce qu'on a ce regard-là, qu'est-ce qu'on se dit? Moi, je n'ai absolument rien de commun avec elle. Oh, non, non, non. Moi, je ne vole pas, je ne trafique pas, je n'abuse pas de l'aide sociale. Hein? Et un tel regard va induire une distance qui, au mieux, va induire une méfiance, mais au pire, va induire de la violence, au travers le mépris, au travers d'injures, au travers même de coups. Et au contraire, Jésus, lui, le pauvre, va comprendre ce jeune homme riche, malgré toute la différence. Jésus va partager quelque chose avec lui, partager quelque chose de ses aspirations, de ses besoins, de ses envies, que me manque-t-il? Et un lien va se nouer entre les deux. Le Christ, le Fils de Dieu, peut s'identifier aux besoins et aux souffrances des hommes, de tous les hommes, parce qu'il partage avec eux une même humanité. Nous n'avons en effet, nous dit le texte des Hébreux, chapitre 4, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ayant regardé le jeune homme, Jésus l'aima. Et il l'invite à poursuivre, il l'invite à découvrir effectivement ce qui lui manquait. Bien, on est content pour ce jeune homme. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Jésus aimait toujours ce jeune homme quand celui-ci a refusé sa proposition, quand celui-ci a décidé de s'en retourner sans suivre Jésus? Est-ce que Jésus l'aimait encore? Ah oui, ça nous semble évident. Mais si on s'interroge nous-mêmes, quand quelqu'un nous refuse quelque chose, pourtant qu'on a offert de bon cœur, est-ce qu'on est toujours aussi bienveillant envers cette personne? Est-ce qu'on sait accueillir des refus, des noms? C'est pas toujours simple. Et pourtant, Jésus l'a fait. Et je crois que ça nous apporte aussi un autre aspect du regard que Jésus porte sur les gens. Jésus les voit comme libres, libres de leur choix. Jésus nous montre le chemin, mais il nous laisse libres de le suivre ou pas. Attitude qui est d'ailleurs au cœur et au fondement même de notre lutte pour la liberté religieuse. C'est bien ça la liberté religieuse, avoir le choix et choisir ou ne pas choisir sans contrainte. Et ce texte nous montre combien l'amour de Jésus n'est pas un amour totalitaire qui emprisonne, qui enferme, mais un amour qui, comme nous le dit la première épître aux Corinthiens, un amour qui ne s'aigrit pas contre les autres, quoi qu'ils répondent. Un amour qui, en toute occasion, pardonne, fait confiance, espère et persévère. Le regard que Jésus pose sur cet homme est un regard plein d'amour, et c'est aussi ce regard qu'il pose sur chacun d'entre nous, et cela, quelle que soit notre situation. Un autre texte, une autre situation, une autre rencontre.
Alors, Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, et il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis en se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Merci. « Vois-tu cette femme ?» demande Jésus à Simon, le pharisien. Alors bien sûr que Simon l'a vue, vous ne pouvez ne pas la voir. Quand elle est entrée, une femme de mauvaise vie, vous vous rendez compte, dans cette maison d'un pharisien, d'un maître de la loi. Oui, Simon l'a vue et il en a certainement même eu un haut le cœur. Hein. La femme, elle, n'a rien dit. Elle a simplement eu une attitude assez étonnante à l'égard de Jésus. Simon, lui, n'y prête pas attention. Tout ce qu'il voit, c'est que c'est une femme à la vie dissolue. Il la connaît bien. C'est une pécheresse. Quelle honte. Quelle honte que cette femme. Bon, pour lui, l'affaire est classée. L'affaire est jugée. Bon, d'ailleurs, Simon ne se contente pas de juger cette femme. Il en vient aussi à juger Jésus lui-même. Ah, si cet homme était vraiment un prophète, Il saurait qu'il y a cette femme qui est en train de le toucher. On ne se laissait pas toucher par n'importe qui, bien sûr. Et il saurait qui elle est, une femme pécheresse. Simon juge. Jésus, lui, va avoir un tout autre regard sur cette femme. Un regard plein de grâce. Parce que Jésus, lui, a discerné, il a compris quelle était la démarche de cette femme. Une démarche de foi, une démarche de repentance, une démarche de reconnaissance, d'où ce parfum qui est versé sur les pieds de Jésus en signe de remerciement. Et quand Jésus va se retourner vers cette femme, c'est pour lui donner cette assurance, « Tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Et c'est vrai qu'au travers de cette petite parabole que Jésus raconte, pour essayer d'expliquer à Simon ce qu'il se passe, Jésus montre que celui qui est le plus proche de Dieu, ce n'est pas celui qui est ou qui se croit être le plus juste, le plus saint. Non, c'est celui qui aime le plus, à l'image de cette femme, qui, parce qu'elle a compris, parce qu'elle a reçu de Jésus, aime beaucoup. Simon, alors qu'il se permet de juger les autres, ne semble pas porter sur lui-même un regard qui est juste. Il se croit bon, il se croit bien. Et en fait, il faudra d'ailleurs le regard de Jésus sur lui pour qu'il comprenne qui il est réellement. Il est un homme sans amour, un homme qui n'a pas donné à son hôte ni l'eau, ni l'huile, ni le baiser d'accueil que l'on donne normalement. Alors c'est vrai que les paroles de Jésus adressées à Simon ne sont pas un reproche, mais plutôt une manière de lui dévoiler, de lui montrer sa pauvreté fondamentale. Aveugle face à ce qu'il est lui-même, il se croyait riche, riche de sa justice, et il se découvre pauvre, pauvre en amour, au point de négliger le salut dans l'accueil de la personne de Jésus. Le regard que Jésus nous porte, c'est vrai, je l'ai déjà dit, est un regard d'amour, c'est vrai. Il est aussi un regard de vérité sur nos personnes, sur qui nous sommes réellement. Et Dieu veut nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, de ce que nous faisons et vivons, de ce qui ne va pas dans notre vie, comme de ce qui va aussi. Simon semble ne pas avoir compris et surtout ne pas avoir accepté le regard de Jésus. Il a été repris, visiblement il n'en fait rien. Et nous, quand Dieu nous reprend par son regard d'amour, quand Dieu nous dit notre vérité, comment réagissons-nous? Est-ce que nous en tenons compte? J'aimerais encore juste relever le courage de cette femme. Elle était connue de tous et pourtant, elle n'a pas craint le mépris des gens bien pensants. Elle a osé, malgré tout ce que les gens savaient d'elle, elle a osé traverser cette foule d'hommes, il y avait un principe que les hommes, pour rejoindre celui qu'elle aimait, Jésus. Pour elle, qu'importe le regard des autres, c'est désormais l'amour et la reconnaissance qui lui donnent le courage de ses actes. Alors savoir que Dieu me regarde, oui, avec ce regard plein de grâce, me permet de venir auprès de lui, à ses pieds, tel que je suis, sans m'inquiéter de ce que vont penser ou dire tel ou tel. Un dernier texte, un dernier regard, une dernière situation.
Le matin, Jésus alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Contrairement à la femme pécheresse du récit de tout à l'heure, cette malheureuse ne vient pas devant Jésus de son plein gré. Elle est traînée de force par des hommes qui l'accusent. Elle avait trompé son mari et la loi punissait cette tromperie. Mais remarquez que Jésus ne jette aucun regard à ses accusateurs. Il va baisser la tête, écrire quelque chose sur le sable. Et lorsqu'il est dit, le regard droit dans les yeux. Et c'est quand il n'y a plus personne que Jésus va s'adresser à cette femme. Et il lui donne cette parole de grâce, en même temps qu'une invitation au changement. Je ne te condamne pas non plus, va et désormais ne pêche plus. Et c'est un peu comme s'il a fallu que ce brouhaha des voix accusatrices s'arrête. C'est comme s'il a fallu que ces regards méchants puissent s'arrêter pour qu'il y ait un véritable tête-à-tête entre Jésus et la femme, pour qu'il y ait une véritable relation de personne à personne et que une parole, un regard de guérison advienne. Oui, je crois qu'il y a non seulement des paroles, mais aussi des regards dont il faut se protéger, regards d'autrui et parfois aussi des propres regards sur nous-mêmes, dont il faut parfois se protéger pour qu'une guérison, une restauration, une grâce soit accordée dans ce tête-à-tête avec le Seigneur. Dans cette rencontre, toujours merveilleuse, Jésus ne la condamne pas, mais il l'invite clairement au changement. Connaître Jésus me permet d'être délivré de tous mes fardeaux, même les plus lourds. Il me rejoint là où j'en suis et il nous invite dans ce changement. Voilà les quelques remarques que je voulais faire à propos de ces textes et vous laisser ceci. C'est vrai que connaître Dieu, c'est accepter, je crois, ce tête-à-tête entre lui et nous. C'est aussi reconnaître sa façon de voir les choses. Et c'est se soumettre à sa façon de voir les choses. Accepter, est-ce qu'on le fait ? De reconnaître pour péché, erreur, ce que Dieu considère comme péché, comme erreur. Acceptons-nous ce regard de Dieu sur ma vie, sur toute ma vie, sur toutes les facettes de ma vie, pas simplement celle du dimanche, mais celle de la semaine, celle de la vie professionnelle, comme de la vie conjugale, sur toutes les facettes de notre vie. Est-ce que j'accepte ce regard de Dieu sur les choix que je fais ? Oui, connaître Dieu, c'est accueillir son regard plein de grâce posé sur nous. Mais est-ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas toujours si évident que cela, que le regard de Jésus, que ce regard qu'il pose sur moi en ce moment, soit un regard compatissant, un regard aimant, sans jugement. Est-ce que je le crois ? Est-ce que je le vois ? Et qu'est-ce que cela va impliquer dans ma vie si je prends conscience de ce regard d'amour de Jésus pour moi ? Simon n'a pas accepté d'être repris par le regard de Jésus. Et nous, le sommes-nous ? Sommes-nous prêts ? Avant que nous ayons choisi de le suivre, Jésus déjà nous regardait plein d'affection, avec un regard rempli d'amour. Et je crois que ce regard de Dieu peut faire toute la différence dans nos vies. Parce qu'il ne juge pas, il ne critique pas, il ne condamne pas, mais il nous accompagne, il nous invite à réfléchir, à changer, à avoir d'autres buts dans la vie. Et si Dieu porte sur nous un tel regard d'amour et de grâce, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement nous laisser quelques temps de silence, que nous puissions prier silencieusement dans notre cœur par rapport à ce regard d'amour que Dieu veut pour nous. Sommes-nous prêts à l'accueillir ? Sommes-nous prêts à lui faire de la place ? Peut-être que nous pouvons lui demander de ressentir plus particulièrement maintenant son amour, si nous en avons besoin. Est-ce que nous sommes d'accord d'accueillir son regard sur toutes les facettes de notre vie ? Je vous invite à quelques instants de silence, que nous puissions nous placer devant Dieu. Il est là, nous avons prié pour sa présence au milieu de nous. Accueillons cette présence et son regard. Et si Dieu porte sur nous un tel regard d'amour et de grâce, quel regard portons-nous sur nous-mêmes ? Est-ce que nous arrivons aussi à nous faire grâce, à nous pardonner, à nous aimer nous-mêmes tels que nous le sommes ? Poursuivons encore quelques instants dans le silence afin de nous poser cette question, de l'amener devant Dieu et peut-être de prier. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, nous dit le premier commandement. Mais le deuxième nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que notre regard sur les autres dépend aussi de ce regard sur nous-mêmes. Mais nous sommes appelés à aimer notre prochain, à porter sur lui ce même regard d'amour, de grâce, que ce regard que Dieu pose sur nous. Je vous invite à terminer ce temps de silence encore, simplement en remettant votre regard sur les autres. Peut-être pensez à celui que vous, celle qui est dans votre entourage, vous avez de la peine à aimer. Que le Seigneur vienne changer votre regard sur cette personne. Que notre Seigneur vienne restaurer votre amour, peut-être, pour cette ou ces personnes. Dieu veut changer notre regard. Demandons-le lui, encore dans le silence. Notre Dieu, notre Père, toute la Bible nous parle, page après page, de ton amour pour chacun d'entre nous. Disons merci, Seigneur. Même si ce n'est jamais évident de réaliser combien tu nous aimes, même si tant et tant de personnes refusent cet amour sans le voir, sans oser y croire. Merci, Seigneur, de corriger notre regard, ce regard que nous portons sur toi. Nous avons tellement de la peine à t'imaginer tel que tu te révèles. Nous t'enfermons dans une petite boîte, nous t'imaginons. Apprends-nous, Seigneur, à te voir tel que tu es révélé dans ta parole, dans la Bible, et à nous en réjouir. Merci, Seigneur, de venir corriger notre regard. Nous en avons tellement besoin de corriger ce regard sur nous-mêmes, comme sur celui que nous portons sur autrui. Nous avons besoin de ton amour, de ta grâce envers nous-mêmes et envers les autres. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu fais cette œuvre dans nos vies, que de pouvoir être lumière dans ce monde, parce que, nous dit ta parole, nous nous aimons les uns les autres. Accorde-nous, dans cette communauté, dans nos familles, sur nos lieux de travail, d'avoir un regard qui encourage, qui aime, qui espère, qui persévère, qui bénit, qui fait grâce, afin que le monde puisse voir, au travers de l'Église, ton amour. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur. Amen.